Bien, alors dans la paracha que nous allons lire cette semaine, bien entendu l'épisode le plus important, c'est le passage de la mer Rouge, et qui s'appelle en hébreu Kriyat Yamsuf, et la déchirure de la mer Rouge. Et en particulier le Maharal, mais beaucoup de commentateurs ont mis en évidence le fait qu'il ne suffisait pas de l'expérience de la sortie d'Égypte elle-même, c'est-à-dire de la fin du lien d'oppression, il y a peut-être un autre mot en français, de possession des Hébreux qui se trouvaient en Égypte par le Pharaon et son régime. Il ne suffisait pas de cette expérience de la fin de cet exil d'Égypte qui est commémoré à Pessah, à la fête de Pessah, au début de la fête de Pessah, le premier soir de Pessah, l'Ela Seder. Bon, Khoutlaret, il y a deux soirs, mais en réalité, il s'agit du premier jour de Pessah, qui commémore donc la sortie d'Égypte elle-même. Et il y a toute la série des événements qui ont rendu possible cette sortie d'Égypte, c'est-à-dire la fin de l'exil des Hébreux en Égypte, qui nous sont racontés déjà depuis le début du livre de l'Exode. On aurait pu penser, si on ne connaissait pas la suite du texte, on aurait pu penser a priori que l'expérience qui a été finalement le fondement de la foi d'Israël, Gal Israël, le fait que la sortie d'Égypte ait été possible, c'est le fondement historique de la foi d'Israël. C'est un sujet que nous avons étudié d'autre part, mais je vous le signale en passant, faites bien attention à cela. Zecher, l'Itiat Mitzrayim, Zikaron, le Maaseh Bereshit, c'est la relation de la création du monde. Mais Zecher, l'Itiat Mitzrayim, c'est la relation à l'événement de la sortie d'Égypte qui fonde la foi d'Israël. La foi d'Israël n'est pas seulement une foi théologique, que le monde a un créateur, mais au-delà de cette foi fondamentale qui était la foi des Sémites, de toute la lignée des initiés depuis le premier homme jusqu'à Abraham, à partir d'Abraham, la foi d'Israël, c'est la Géoula, c'est la délivrance de la condition d'exil. Nous avons étudié ça de différents aspects. Sans doute, si ce n'est pas suffisamment clair dans votre pensée, au courant de l'étude, vous m'interrogerez à ce sujet lorsque j'arriverai de nouveau. On aurait pu donc penser a priori que cette expérience de la Géoula, de la délivrance, de la sortie d'Égypte, avec toute l'importance qu'elle a, que je viens de rappeler très brièvement, aurait suffi du point de vue de l'événement qui met fin à cette préhistoire d'Israël, puisque l'histoire d'Israël va commencer, l'histoire d'Israël en tant que collectivité, elle a énormément de péripéties jusqu'à l'achèvement, à l'aboutissement de l'histoire humaine, au temps messianique. Ça commence à la sortie d'Égypte. Donc, on aurait pu penser que l'événement de la sortie d'Égypte, commémoré le premier soir de Pessah, aurait suffi comme expérience. Et voilà que nous allons voir le récit d'un deuxième événement de délivrance, le passage de la mer Rouge. Vous savez que Pessah est commémoré pendant 7 jours. Les 6 premiers jours commémorent la sortie d'Égypte elle-même, avec essentiellement, comme en gros plan, la première nuit du Seder de Pessah. Et le 7e jour de Pessah, Shvi'i shel Pessah, commémore un deuxième événement qui lui est relié, qui en est d'une certaine manière comme le parachèvement, et qui est la traversée de la mer Rouge. Alors je vais donner 2 expressions en français qui sont habituelles, la traversée de la mer Rouge, le passage de la mer Rouge, mais en fait l'expression hébraïque, je voudrais en dire quelques mots en préalable au sujet que je voudrais traiter, est beaucoup plus précise et beaucoup plus significative, c'est Kriat Yamsuf. L'Ikroa, c'est déchirer. Le fait que la mer Rouge se soit déchirée pour laisser le passage à sec des tribus d'Israël. Selon le Midrash, il y a eu 12 shvilim, 12 chemins. Je ne rentrerai pas dans le problème de l'événement en tant que miracle. C'est un problème important, peut-être j'y ferai allusion en passant. Mais je citerai très rapidement, sans vous donner la référence en détail étudiée, nous allons étudier une référence du Midrash tout à l'heure, mais je vais vous en citer quelques-uns comme ça, quelques-unes en passant, justement pour mettre en évidence le fait de l'importance de cet événement de Kriyat Yamsuf, de la déchirure de la mer Rouge. Je m'aperçois en traduisant que c'est mal traduit. On a l'habitude de dire la mer Rouge, mais en réalité c'est la mer des joncs. Souf, c'est le jonc. C'est comme ça qu'on dit en français, avec un C à la fin. Et je me semble avoir lu ou avoir entendu une fois qu'il y a des périodes dans l'histoire de cette région, il y a des vermisseaux de couleur rouge qui donnent cette couleur à la mer. Les mots en français m'échappent, mais vous comprenez l'idée. Des Peut-être. Ça, par transparence. Non, mais des animalculants, je veux dire. Très bon. On aurait pu dire la mer rouge, donc je dirais la mer rouge. Et puis, la Guémara, c'est au début de Maseret Sota, dit que la chose la plus difficile au monde, c'est cette déchirure de la mer rouge. Elle compare, la Guémara, les choses difficiles dans la destinée humaine à toujours à Kriyat Yam Suf. C'est aussi difficile, vous remarquez, je ne vais pas vous donner d'exemple, parce que nous ouvrirons les parenthèses qui vont être trop de temps. Mais chaque fois que la Guémara, je vous conseille pour ceux qui lisent le Talmud, de vous référer aux pages 2 de Maseret Sota, chaque fois que la Guémara parle de quelque chose d'extrêmement difficile, il s'agit d'ailleurs dans cet exemple d'une catégorie de mariage réussi. En général, un mariage réussi, c'est très difficile, mais il y a certains mariages très difficiles à réussir. Voilà, je rentre dans la parenthèse. Alors, je la referme. Alors, la Guémara dit, c'est aussi difficile cacher qu'est Kriyat Yam Suf, que le déchirure de la mer. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans la déchirure de la mer rouge pour le Tout-Puissant? Je veux dire, dans la cohérence du récit biblique, ce genre d'enseignement de la Torah orale, ce genre d'enseignement du Talmud, implique une certaine difficulté. Qu'est-ce que nos maîtres ont vu d'exceptionnel dans cet événement de la traversée de la mer rouge? Je ne rentre pas encore une fois dans le problème du miracle en soi. Vous savez qu'il y a énormément de théologiens rationalistes qui essayent de naturaliser cela en disant, bon, on pourrait le comprendre à la rigueur comme une espèce de marée exceptionnelle accompagnée d'éclipses de lune. Et puis le fait que Moïse était un très grand géographe et il connaissait le passage à Gué. Et alors il a réalisé le passage à Gué ou là. La Géoula. Mais tout ça, ce sont des explications très très plates. Il y a énormément de facteurs qui montrent que c'est un événement exceptionnel. Et puis, en cohérence talmudique, pour le maître du monde, quand il intervient dans son monde, El Shaddai, le Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il y a de difficile d'ouvrir les mers pour que son peuple soit sauvé? Et ça s'étudie d'autre part. Il y a en particulier un Midrash qui nous dit que quand la mer rouge s'est ouverte, toutes les mers du monde entier se sont ouvertes. Et ici, un enseignement extrêmement important. Dans mes études de technologie, d'ailleurs, j'ai rencontré très souvent des traditions de sociétés anciennes qui ont dans leur mémoire des événements analogues. Qu'est-ce que veut dire le Midrash? Le Midrash veut dire que lorsqu'une loi de la nature est suspendue, elle est suspendue à l'échelle universelle. De la même manière que le Midrash enseigne que lorsque Dieu se révèle, il se révèle à Israël en direct, en hébreu, l'hébreu des prophètes, mais en même temps, dans les 70 langues, aux prophètes des nations. Et il y a une perspective de la providence à l'échelle universelle qui est indiquée par les Midrashim. Et alors, un des grands auteurs, un grand commentateur de la Mishnah en particulier, mais de beaucoup de sources, qui est le Rav Lot Ephraim, a donné une réponse que je voudrais citer. Et ce qu'il y avait de difficile pour Dieu dans cette déchirure de la mer rouge, c'est l'événement lui-même. Pour sauver Israël, il fallait sacrifier l'Égypte. Et là, on est renvoyé de nouveau à un niveau de monothéisme absolu, de monothéisme intégral qu'il faut toujours avoir en mémoire. C'est que, effectivement, il y a une situation d'impasse au moment où Israël se trouve devant la mer, derrière lui l'armée égyptienne, et nous allons reprendre ce texte tout à l'heure, et il faut que Dieu intervienne, et semble-t-il, la balance des mérites ou des démérites, il n'y a pas de mot en français qui traduirait très exactement le mot « srout » employé dans cette phrase, mais enfin, mérite ou démérite, est tellement suffisamment équivalente qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu intervient pour Israël contre l'Égypte à ce moment-là, bien qu'il l'a déjà fait, mais justement il l'a déjà fait, que se passe-t-il à ce moment-là? Et voilà ce que le Rav Lot Ephraim met en évidence dans un texte extrêmement précis, extrêmement dense d'ailleurs, c'est que, et il nous dit, il y a beaucoup de situations dans l'existence qui sont ainsi, pour sauver quelqu'un, il faut perdre quelqu'un d'autre. C'est aussi les mystères des mariages difficiles. Je dis rien de plus parce que sinon ça va nous prendre toute l'heure. Je ne sais pas pour qui je cite ça, mais ce n'est pas grave. Et alors, pour que Israël soit sauvé, il faut envisager la perte de l'Égypte. Voilà ce qui avait été difficile dans Kriyat Yam Suf. Bien. Et alors, je reviens donc au sujet. C'est que, là je cite le Maharal très brièvement, il y a eu une première expérience de la foi, c'est que la Providence intervient pour délivrer celui qui est aux prises avec l'oppression de quelqu'un d'autre, la volonté humaine souveraine sur quelqu'un et le rendant esclave. Et c'est une expérience fondamentale de la foi d'Israël. Le fait que on peut être, le faible peut être délivré du puissant. Apparemment, dans une réflexion qui ne tiendrait compte que d'un fonctionnement impersonnel des lois du monde, il y aurait là une... Les Grecs ont beaucoup mis cela en évidence. Il y aurait là une tragédie qui fait que une situation inéchappable où il peut arriver que la morale soit mise en échec parce que le fonctionnement du monde fait que le puissant est plus puissant que le plus faible. Et alors, une des données de la foi, c'est que arrivé à ces situations d'impasse, il peut y avoir intervention du dehors du monde. C'est le contenu du récit de la sortie d'Égypte. Et vous comprenez donc l'importance de la référence à cet événement historique de la foi d'Israël. Et si Dieu intervient, c'est pas pour, je sais pas comment, pour des questions religieuses. Si Dieu intervient, c'est parce que le fonctionnement du monde nécessite, pour que la justice et la morale soient rétablies, une intervention du Créateur. Je répète souvent, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le faire ici, que le Dieu d'Israël dont parle la Bible, le Dieu dont parle la Bible d'Israël, ce n'est pas un fondateur de religion, c'est le Créateur des mondes. C'est très différent. Et donc il faut comprendre ces textes bibliques à ce niveau-là. Et donc là, il y a une leçon importante qui nous est donnée, c'est que cette expérience de la traversée de la mer Rouge se fait dans une atmosphère, je le dis en hébreu, vous m'aiderez à traduire, tsar. Envahi, et la chan tsar, vahi, beshalah paro et taam, dans une atmosphère de catastrophe. Disons, chaque fois qu'un texte du récit de la Torah, dans la Bible en général, mais surtout dans la Torah, commence par l'expression et il est arrivé que, vahi, alors on est averti qu'on va nous parler d'un événement catastrophique. Je ne vais pas expliquer la règle elle-même, ça prendrait trop de temps, mais je la désigne simplement. Nous avons ici une forme verbale qui est très importante et qui n'existe, à ma connaissance en tout cas, que dans la langue hébraïque de la Bible. C'est le futur converti en passé par le vav conversif. Je vous cite les expressions des grammairiens. Ils étaient obsédés par les problèmes de conversion, je suppose. Mais bon, le yéhi, ça veut dire « il sera ». Vaïhi, ça veut dire il a été. Si le vav qui est devant le yéhi invertit le futur en passé. Alors, selon la logique de l'herméneutique talmudique, si un événement qui est de l'ordre du futur est encore un événement de l'ordre de la promesse, il porte des espérances. Il porte l'espérance. Au pluriel, ça risque de faire dire le contraire, la désespérance. Mais, et si un événement qui est de l'ordre du passé est un événement révolu? Il porte le regret du révolu. Mais si, alors, le summum de l'atmosphère de tsar, d'atmosphère de catastrophique, c'est quand quelque chose qui était de l'ordre de la promesse de l'avenir est transformé en passé irréversible. C'est cette indication de la forme verbale du vaïhi que le Midrash va exploiter. Ce récit commence par une indication très directe que il y a, je ne veux pas du tout employer le mot d'échec, parce que ça risque de fausser l'étude que nous allons avoir, quelle que soit la difficulté des traductions que nous avons inévitablement, laissez le mot échec de côté, mais il y a une atmosphère de non-réussi, d'inaccompli, de mal accompli. Mais retenez la règle, chaque fois qu'un récit commence par Vaïhi, on est averti que ça s'est mal passé. Et pourtant, c'est une expérience qu'il fallait traverser. Là, je recite donc le Maharal et je complète. Au moment de la sortie d'Égypte, on commémore cette expérience de la foi d'Israël, qu'on peut être sauvé de la volonté, je cherche un mot en français, de la sous, comment on appelle ça, s'imposer à quelqu'un d'autre, comment ça se dit en français, de la suggestion d'une autre créature du même Dieu. L'expérience du passage de la mer Rouge, c'est qu'on peut être sauvé des lois de la nature elle-même. Donc l'expérience de Shvi Shel Pessah, du septième jour de Pessah, pour la foi d'Israël, est encore beaucoup plus profonde que celle de Pessah elle-même. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair pour tout le monde. Réfléchissez bien à cela. Si vous voulez un jour reprendre le texte du Maharal, il nous dit ceci. Lorsque j'ai à me mesurer à la volonté de quelqu'un d'autre, eh bien, d'une part, c'est très difficile, parce que l'autre est méchant. Mais ça peut être pas si difficile que ça. Parce que comme l'autre est un homme, on peut peut-être arriver à toucher des sentiments du bien chez lui. Et vous voyez, il y a les deux aspects. La suggestion à la volonté de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de beaucoup plus grave que la suggestion à la loi de la nature. Parce que la loi de la nature, si j'ai le minimum de science qui me permet de négocier avec la loi, comme on dirait en français, une stratégie de gérer la situation d'affrontement, alors la nature, c'est l'objectif de la science qui mène à la technique. Si je connais les lois de la nature, je pourrais m'en rendre maître d'une manière ou d'une autre, mais alors que la volonté de quelqu'un d'autre, c'est l'arbitraire absolu. Parce que la volonté de l'autre est agie, est mue par des passions, par des tendances, par des pulsions, par des instincts, et c'est le domaine de l'arbitraire absolu. Les Juifs savent ça vis-à-vis de leurs ennemis héréditaires. Je pense surtout à ce qui s'est passé au temps des nazis. Vous voyez la situation avec le pharaon et l'arbitraire absolu. Bon, tandis que dit le Maharal, par rapport à la nature, eh bien, d'un côté, c'est beaucoup plus grave parce qu'on est affronté à l'impersonnel et non pas à une personne. Mais d'un autre côté, c'est peut-être moins grave parce que la nature, on peut la surmonter. Mais quoi qu'il en soit, on pourrait la surmonter. J'ai à l'esprit le problème de la médecine. Qui est l'indice de la faiblesse de l'homme de science, d'ailleurs, par rapport à ce dont il est parlé là. Il faut une connaissance du fonctionnement de la maladie et de la guérison pour se rendre maître de la maladie et de la guérison, qui est le plus grand scandale dans l'histoire du monde, selon l'enseignement de la prophétie hébraïque. J'ouvre ici une petite parenthèse linguistique qui vous montrera comment les prophètes hébreux ont pensé cela. L'existence de la maladie et donc de la mort, qui est la maladie à son point culminant, est perçue comme un scandale absolu, au point que c'est interdit au prêtre d'avoir relation avec la mort. Alors que dans toutes les autres religions, le prêtre ne s'occupe que de ça. Nous avons, dans le judaïsme, des confréries qui s'occupent du respect dû aux morts et des devoirs dus aux morts, mais jamais le prêtre. Vous comprenez par là à quel point le rabbin n'est pas un prêtre. Lorsque le rabbin s'occupe d'un enterrement, il joue le rôle du chazan, mais pas du rabbin. Le rôle du rabbin, c'est au tribunal, le juge. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que tout le monde est familier à ces impossibilités de traduire de l'hébreu en français lorsqu'on parle des sujets de fond. Mais le Kohen, en tout cas, ça lui est absolument interdit d'être en relation avec la mort, qui est le blasphème absolu. Et le blasphème du blasphème, ça commence dans la maladie. Alors regardez en hébreu. Comment dit-on la maladie ? Machala. Comment dit-on un malade ? Cholé. Et comment dit-on un cadavre ? Un cadavre. Halal. Peguer, c'est vrai, mais c'est pas ce niveau-là. Gou, c'est le goût vivant, c'est le corps vivant. Le cadavre, c'est le halal. Regardez le lien sémantique. Et un trou, ça se dit hol. Et le profane, ça se dit chol. Ça veut dire, il y a comme la maladie qui mène à la mort, c'est. Ça suggère, du point de vue de l'intuition sémantique, qu'il y a une vacuité, un trou dans l'être du monde, et qui commence par la maladie, qui culmine dans le cadavre. Et c'est une profanation de la sainteté du monde en tant qu'il est créé par Dieu. Donc le blasphème absolu, c'est la maladie. Rappelez-moi pourquoi j'ai parlé de la maladie. C'est pas un sondage indiscret. Ah oui, exactement. Très bien. Et alors là, on se trouve démunis. Je sais qu'il y a des médecins dans la salle, ils savent à quel point ils sont les seuls à savoir ce que peut être la misère humaine au niveau de la maladie. Une petite parenthèse, les grands maîtres, pas seulement dans la tradition juive, mais dans les autres traditions aussi, ont été aussi les médecins. Je pense surtout à Maïmonide, mais il n'est pas le seul. Chez les nations... C'est le cas de Descartes, qui était un des plus grands penseurs que peut-être l'Occident a connu. Il y en a eu d'autres, mais chacun à son niveau. Descartes était génial en ce sens qu'il a eu la même intuition que Maïmonide. Selon Descartes, il faut s'occuper essentiellement des mathématiques pour maîtriser les lois de la nature et de la biologie pour guérir les maladies. Je ne sais pas si vous voyez le lien. Descartes n'est pas vraiment médecin, mais il était un grand, on dit biologiste, okay, un grand biologiste. Donc, pour revenir au sujet, vous voyez, on est averti que on est au point culminant de l'expérience de la sortie d'exil. La première étape, c'est la sortie de l'Égypte elle-même. On n'est plus sous la souveraineté du pharaon et de ses serviteurs, le parti de, au pouvoir. Et deuxièmement, il faut, dans la même expérience, lancer l'expérience, avoir cette expérience qu'on peut être sauvé des lois de la nature. Alors encore une fois, nous avons là, c'est un sujet pour lui-même, mais je le rappelle simplement brièvement en introduction, l'événement historique qui fonde la foi d'Israël, et puis qui vient compléter la cohérence, la logique, la théologie du monothéisme. D'abord, il s'agit du créateur du monde, mais que ce créateur du monde intervient dans le monde pour mettre fin aux situations d'aliénation, des situations d'exil. L'aliénation à l'autre homme, l'aliénation au destin, comme diraient les Grecs, au fonctionnement aveugle des lois de la nature. L'aliénation à la nature. Et le sujet que je voudrais aborder, je vais compléter quand même ça, pourquoi c'est important, parce que finalement, ça explique en grande partie, pas complètement, mais en grande partie, pourquoi tellement de cultures humaines se sont référées à la foi d'Israël pour définir leur propre foi théologique. Je prends que l'exemple de la chrétienté qui se réfère à Pessah, à la Pâque juive, dont elle a fait le fondement de sa propre foi en la transformant dans l'époque chrétienne. Et ça vient du fait que la situation d'exil, c'est la situation de la créature. La créature est en exil du Créateur. Et donc le fait, même inconsciemment, pas forcément très lucidement, de percevoir qu'il y a un peuple dont l'histoire témoigne qu'on peut sortir d'exil, ça veut dire que l'histoire de ce peuple témoigne que le salut est possible au niveau métaphysique le plus total. C'est au fond cela qui rend compte du fait pourquoi tellement de nations, de sociétés, de traditions qui n'avaient rien à voir avec Israël se sont accrochées à la foi d'Israël. Chacune à sa manière et dans les rivalités que vous connaissez, mais ça se relie à cette expérience. Et ceci dit, donc, le passage de la mer Rouge, qui est la déchirure de la mer Rouge avec les difficultés que cela a, dans la cohérence du monothéisme, pour sauver Israël, il faut perdre l'Égypte, et complément de l'expérience de la sortie d'Égypte elle-même, avec toute cette importance, ça nous est donné dans une atmosphère de tsar, une atmosphère de catastrophe. Alors voilà le principe que nous allons étudier avant d'arriver à un certain nombre de textes. Il faut remonter un peu plus haut. Vous remontez un peu plus haut dans la paracha de la semaine dernière et où la Torah nous donne les lois de Pessah. Or, elle donne d'abord les lois de Pessah, c'est-à-dire la avoda, le culte, le cérémonial, si vous voulez, de la sortie d'Égypte elle-même et qui s'appelle en hébreu Pessah de Mitzrayim. La Pâque, mais de l'événement même de la sortie d'Égypte. Et juste après, elle nous donne déjà les lois de commémoration de cet événement de Pessah, les lois de Pessah en tant que, qu'on appelle Pessah chez le Dorot, le Pessah des générations à venir, en tant que les générations à venir commémorent l'événement de Pessah d'Égypte. Est-ce que c'est clair, M. Charabian? C'est clair? Alors, c'est ça qu'il faut découvrir. Et je vous demande de suivre avec un peu d'attention, bien malgré l'heure tardive. Et j'espère que ce sera suffisamment clair. Bah, c'est une idée pas simple à percevoir, en tout cas en français. Si on commémore un événement, c'est le signe qu'il n'est pas complètement accompli. Si on a commémoré un événement, à le mémoriser, à s'en souvenir, à s'y rattacher, à s'y référer, ça signifie que l'événement en question n'est pas achevé, n'est pas totalement accompli. Et vous voyez qu'on va aborder un paradoxe. L'événement de la sortie d'Égypte est un événement irréversible. Et cependant, il est à commémorer. Donc, ça veut dire qu'il est de l'ordre de l'inaccompli. Il est le point de départ de ce que sera la dernière commémoration, qui, elle, nous fera passer vraiment dans le post-Égypte, qui avait commencé, mais en préhistoire, à la sortie d'Égypte. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire là? Tout le monde a entendu tout? Donc, Je vous donnerai une référence à cela. Vous avez dû remarquer qu'on ne commémore pas l'événement qu'on aurait pu considérer comme étant le point de départ de notre histoire, et qui est la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim. Abraham, à l'échelle individuelle, a vécu la même histoire que la sortie d'Égypte dans sa sortie d'Ur-Kasdim. Et d'ailleurs, les versets qui se réfèrent à l'événement de la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim ont la même forme que les versets qui se réfèrent à l'événement de la sortie d'Égypte pour Israël en tant que peuple. Et c'est l'expression « Anochi, Hashem Elokecha, Asher Otzeticha, Meret Mitzrayim » et puis par rapport à Abraham, « Anochi, Asher Otzeticha, Meur Kasdim » et on ne réfère pas, on ne commémore pas la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim. À ça, il y a deux raisons. Une théologique, que j'aborderai simplement par allusion, il faudrait trop de temps pour l'expliquer, c'est que la religion d'Israël ne se base pas sur l'expérience d'un héros singulier, individuel, fût-elle véridique, Abraham, fût-il le plus important, le point de départ. Et la religion d'Israël se base sur l'expérience de la collectivité d'Israël. Parce que l'histoire de la collectivité d'Israël, c'est la mienne dont je suis membre. Tandis que l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire de mon ancêtre, auquel je me relierai par la mémoire. C'est une pseudo-religion, c'est une religion, le mot meilleur en théologie chrétienne, selon l'esprit pneumatique, disent les Grecs, c'est tout à fait extérieur à la religion dans le biblique. Je vous cite un principe que vous connaissez certainement, Hayav Adam Leharot et Atzmo Keilu Hu Yatsa Mimitzrayim. Chacun, le soir de Pessah, du Seder de Pessah, doit se considérer comme si lui-même est sorti d'Égypte, et pas que je me rappelle que mes ancêtres sont sortis d'Égypte. Si je me rappelle que les ancêtres sont sortis d'Égypte, je renvoie les ancêtres dans le passé. C'est une pseudo-tradition qui consiste à se remémorer le passé comme passé. Alors que la vraie tradition consiste à actualiser le passé au présent. C'est mon histoire que je vis. Et effectivement, il y a des religions qui se basent sur la légende du héros. Et la communion à la légende du héros. C'est extérieur au judaïsme, c'est extérieur à la Bible. C'est une des religions de type grec. Mais en fait, il y a donc une raison fondamentale pour laquelle on ne commémore pas la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim. Si on commémorait la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim, nous aurions le culte abrahamique, Saint Abraham. Ça, c'est pas juif. De la même manière qu'on ne commémore pas, je ne sais pas comment dire, des événements extrêmement importants, la naissance de Moïse. La naissance de Moïse, ça aurait pu être un Noël hébraïque extraordinaire. Et vous savez qu'en hébreu, on écrit de l'autre côté, on l'aurait appelé Léon, pas Noël. Mais justement, c'est évacué dans le principe. Okay? Parce que, est-ce que c'est clair? Lisez l'histoire de Moïse et rendez-vous. Et vous vous rendrez compte que si Israël était goy, on aurait fait un culte de Moïse exceptionnel. Il n'y a que des goyim qui sont capables de faire des cultes de ce genre. Est-ce que c'est clair? Et en général, ils préfèrent des personnalités. C'est le culte de la personnalité. Je reviens au sujet. Donc, la raison essentielle, c'est que Abraham est un individu. Or, il ne faut pas oublier que c'est son histoire que nous vivons, mais nous la vivons en tant que collectivité, donc c'est l'histoire de la sortie d'Égypte. Est-ce que c'est clair? Donc, je voudrais ici ouvrir une parenthèse avant de dire la deuxième raison. C'est la différence entre le mythe et le midrash. Dans le mythe, eh bien, on met en évidence un cas particulier d'une identité collective à l'échelle exceptionnelle, à l'échelle, je cherche le mot en français, exceptionnel, ça peut aller être d'exception, mais à l'échelle exemplaire, et on substitue le profil d'identité d'un individu à l'universel humain. Alors que dans le Midrash, c'est l'inverse. On élargit à la collectivité les signes d'excellence d'un individu exceptionnel. Puisqu'Abraham a été Abraham, Dieu va s'adresser à lui pour sa descendance. Vous voyez la différence? Moïse ne dira jamais « Mon Dieu m'a dit de vous dire que ». Il dira « Votre Dieu m'a dit de vous dire que ». Et puis surtout, c'est Midrashim qui montre que, celui que j'ai cité tout à l'heure, que le Midrash parle toujours à l'échelle de l'universel. Si Dieu parle, il parle toutes les langues à la fois, en direct, comme on dit à la télévision, en hébreu, mais en différé pour les autres. Et c'est le mystère et le problème de la traduction. Et puis, il faut quand même prendre acte que la Bible est le livre le plus traduit au monde. C'est pas pour rien, c'est pas par hasard. qu'est-ce qu'a vu l'humanité dans ce livre ? Elle le sait. Et puis, d'ailleurs, je disais un jour, si on réclamait les droits d'auteur sur la Bible, nous n'aurons plus de problème économique à la Istatroute. En tout cas, pour revenir, on fera un jour, je suppose. En tout cas, pour revenir au sujet, eh bien, que disais-je ? Juste avant, je pensais à la Istatroute. Par un monde véritable. Qu'est-ce que je disais avant ? Bon, eh bien, la deuxième, la différence entre le mythe et le midrash. La deuxième raison, qui est la plus essentielle, eh bien, c'est que la sortie d'Abraham d'Ur-Kasim est irréversible. Et je cherche un mot plus fort qu'irréversible, parce que la sortie d'Égypte aussi est irréversible. On ne verra pas autant, mais quand même, elle est Zebilti Hafir. Ça devrait se traduire par irréversible, mais je cherche un mot plus fort. Abraham est sorti d'Ur-Kasim et c'est fini. Et il demande comme consigne pour marier ses enfants qu'on les ramène jamais là d'où il est sorti. Vous vous rappelez de cela, hein ? Alors que ça veut dire que c'est un événement réussi. Tout ce qui est avant Abraham, c'est la préhistoire. Les historiens sont obligés de se rendre compte que ce qui est avant Abraham, c'est la préhistoire dans le monde entier. C'est quelque chose de très frappant. En gros plan, d'ailleurs, avant la sortie d'Égypte, partout, dans toutes les traditions, c'est le temps mythologique. Et on vous parle, avant ce temps-là, on parle toujours de dieux, de demi-dieux, de héros, de quart de dieu, enfin, toute la mythologie. Okay, la seule histoire normale, de mémoire normale, on la trouve dans l'histoire biblique. Nos ancêtres, non seulement étaient des hommes, mais c'était des esclaves. Dans quelle tradition on se réclame de ça ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence qu'il y a, une différence d'essence, une différence de nature. Mais surtout, ce que je disais juste avant, c'est très frappant. Dès qu'on étudie la manière dont les nations comprennent leur propre préhistoire, on s'aperçoit qu'elle est toujours mythologique. Il n'y a aucune exception. Et il n'y a que dans l'histoire biblique que ça commence avec des hommes. Enfin, quoi qu'il en soit. La sortie d'Abraham d'Ur-Kasim met fin à une période antérieure devenue préhistorique totalement. Alors que la sortie d'Égypte, c'est le commencement d'un processus à achever. Est-ce que c'est clair ? Voilà. Alors c'est ce paradoxe-là qu'il faut arriver à comprendre. C'est déjà annoncé, donc dans ce que je vous ai dit, ça vous référez vous-même à ces textes de la paracha la semaine précédente, dès que la Torah nous donne à commémorer la sortie d'Égypte. Je vous mets une petite indication pour ceux qui ont en mémoire le texte de la Haggadah de Pessah. À la fin, on dit un petit poème, qui est très beau d'ailleurs, qui est, je suppose que la plupart du temps, on se rappelle que la plupart du temps, c'est à la fin du CDR, tout le monde est déjà ensoleillé. Je vais vous dire deux vers de ce poème. Hassal Sidur Pessah Keil Chato, Keshem Shezachinu Lesader Oto, Kach Niske Laas Oto. Je traduis. C'est achevé l'ordonnance du rite de Pâques, de Pessah, selon sa règle, et on demande, de même que nous avons eu le mérite de pouvoir et s'adhérer au tout, aidez-moi à traduire, vous devez dire ce que je vous dis, l'ordonnancer. Vous avez compris l'idée ? En tant que rite, que de même nous ayons le mérite de le faire. Est-ce que vous voyez la différence entre le rite de commémoration et l'événement ? Et alors l'événement est le point de départ d'une histoire de commémoration qui doit mener à un événement d'aboutissement irréversible définitif. Que j'appellerai, entre guillemets, parce que les chrétiens se sont emparés de l'expression « en enfer si on en fait », la dernière Pâque, le dernier Pessah. Toute la commémoration de Pessah, c'est en vue du dernier des Pessah, qui sera la sortie ultime de la condition d'exil de la créature humaine. Et qu'on appelle, d'autre part, dans un autre vocabulaire, le temps messianique. Est-ce que c'est bien clair ? Et vous voyez ce qui se passe d'ailleurs dans les Pâques chrétiennes, où de manière purement abstraite, nourri de beaucoup de ferveur spirituelle, mais à sens gréco-romaine et pas du tout hébraïque, eh bien, on prétend que la dernière Pâque a déjà eu lieu. Et puis, c'est une scène avec une faute d'orthographe. Et puis, bref, ça passe ailleurs. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais je répète ça, je voudrais que ce soit vraiment bien clair, que le fait de commémorer l'événement de la sortie d'Égypte indique que il n'est pas complètement achevé. Ça n'enlève en rien l'importance de son caractère irréversible de point de départ de ce qu'aurait été l'histoire d'Israël, porteur de cette foi en espérance qu'on arrivera à au Pessah achevé. C'est clair jusque-là ? Bon. Eh bien, il y a une deuxième indication, et après nous allons étudier un texte. Et la deuxième indication, c'est quand, à la vision du buisson ardent, quand Dieu se révèle à Moïse pour le charger de la mission de délivrer Israël, qui commence à ce moment-là, et vous vous souvenez d'ailleurs que c'est la première fois que Dieu s'adresse en révélation à Moïse, et Moïse est âgé de 80 ans, jusque-là il n'avait aucune révélation, et la première révélation de Dieu à Moïse, c'est justement, comme je vous allusion au début, c'est pour réaliser cet événement d'intervention pour le salut d'Israël, préfigurative du salut de l'humanité. Eh bien, Moïse demande sous quel nom il devra parler de Dieu qui se révèle à lui. Vous vous rappellerez, c'est dans le début de l'Exode, et Dieu lui répond « Ehyé Asher Ehyé ». Alors, il faut d'abord expliquer la question de Moïse, la demande de Moïse. Est-ce que les Hébreux, qui ont déjà leur tradition théologique, ce sont les descendants des patriarches, et ils portent en eux toute la culture de la foi hébraïque. Ça commence pas avec la lecture d'un livre, la Bible qui nous raconte une histoire des âges passés. C'est l'histoire d'un peuple qui a déjà sa propre culture, sa propre foi, sa propre compréhension de ce dont il sera parlé dans ce livre qui racontera cette histoire. Et alors ils savent que Dieu intervient dans le monde à travers des médiations différentes. J'en cite, il y en a 13, j'en cite simplement deux. Dieu intervient dans l'histoire des patriarches sous forme, la forme que j'emploie est difficile, mais sous forme de Dieu des promesses. Lorsque Dieu s'adresse aux patriarches, c'est en tant qu'il promet. Et le nom est El Shaddai, vous rappelez-vous ? Et puis d'autre part, il y a cette promesse que le Dieu des promesses sera le Dieu de la réalisation des promesses. Et alors, dans la question de Moïse, il y a déjà cette interrogation. Avec quel nom, sous quel nom je vais désigner que le temps de cette révélation est arrivé ? Encore Dieu des promesses ou déjà Dieu de la réalisation ? Quand ils me demanderont avec quel nom, qu'est-ce que je leur répondrai ? Vous avez compris que la question de Moïse n'est pas simplement une question d'ignorance. Je ne connais pas ton nom, rappelez-moi votre nom. D'ailleurs, c'est plein d'humour. La première fois que Dieu s'adresse à Moïse, qu'est-ce que Moïse lui dit ? Rappelez-moi votre nom. Mais en réalité, la question est tout à fait différente. À travers quel attribut ? Alors Dieu répond « Ehyé Asher Ehyé ». Les traducteurs ne traduisent pas très exactement. Les traducteurs traduisent « Je suis qui... » Laissez-moi parler. « Je suis qui je suis ». Il y a une première erreur. « Ehyé », c'est un futur et pas un présent. « Ehyé », ça veut dire « Je serai ». Et « Asher Ehyé », »,« Je serai ce que je serai ». Ça veut dire « Ça dépend de l'événement dans lequel je me manifeste ». Et vous verrez l'explication de Rashi sur ce verset. Elle est très claire. Quand je me manifeste en tant que Dieu de la promesse, alors c'est El Shaddai. Quand je me manifeste en tant que Dieu de la réalisation, etc. Et il y a différentes médiations. Et à ce moment-là, Moïse, d'après le récit, dit, cité par le Midrash que cite Rashi, le Midrash dit, ça signifie, va leur dire, je serai avec eux dans les exils futurs, comme je suis avec eux dans le présent exil. Alors là, Moïse intervient et dit, comment je vais, au moment de la délivrance, leur annoncer que c'est pas fini. Est-ce que c'est clair? Ça ressemble tellement à tous ces événements que nous avons vécu à travers 4000 ans. Et puis, chaque fois, il s'agit de savoir que ce n'est qu'une étape et qu'il faut aussi passer par ce par quoi il faut passer. Alors, c'est ce que Moïse dit à Dieu. Je lui dis, tu as raison. Il va leur dire, je serai. Mais alors, vous rappelez de ce texte, hein? Alors, précisément, d'ailleurs, je ne voudrais pas prendre de temps, mais pour ceux qui étudient un peu plus profondément dans les textes, vous savez qu'il y a 10 noms dans lesquels Dieu se manifeste dans le récit biblique, 10 noms différents. Le premier de ces noms dans les niveaux de providence, c'est Ehyé. Et de Ehyé peut être des autres noms par la suite. Et alors donc, de ce Midrash, il faut mettre en évidence que nous savons déjà qu'il y aura d'autres exils. Et pourquoi il y aura d'autres exils ? Parce que ce qu'il fallait réussir dans l'événement de fin d'exil n'a fait que commencer à réussir. Il faudra que ça soit achevé dans d'autres étapes. Est-ce que c'est clair? Alors déjà, nous sommes avertis qu'il y a là, je pense avoir été suffisamment clair sur cette ambiguïté, cette ambivalence, un événement important, irréversible, le passage de la mer Rouge, mais où il est déjà indiqué que ce n'est que le commencement d'une série d'étapes à réussir. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, vous allez tout de suite prendre le texte du Midrash et on va voir le premier verset de notre page. Alors, notre paracha dit, Vayi, Beshalach, Paro et Param. Et il arriva lorsque le pharaon eut renvoyé le peuple. Première difficulté, jusque-là, le texte biblique nous dit, et nous le dit de manière très ample, que c'est Dieu qui intervient pour faire que Israël soit délivré. Et voilà que notre verset semble s'opposer à tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, dans le style de l'atmosphère de l'événement, que c'est le pharaon qui a envahi le peuple. Est-ce que vous voyez le contraste, okay? Dès qu'on entend ce verset, Vayi, Beshalach, Paro et Aram, on s'aperçoit qu'il y a un contraste absolu dans le déroulement du récit jusque-là, intervention de Dieu à travers toute une série de miracles. On attend un tout autre verset. Et il arriva lorsque Dieu eut délivré Israël de l'Égypte. Et il arriva lorsque Israël fut sorti de l'Égypte. Mais la forme est complètement autre. Et il arriva lorsque le pharaon eut renvoyé le peuple. Alors, les Midrashim mettent en évidence ceci. C'est que il y a eu différentes manières de vivre cette sortie d'Égypte par rapport aux différentes catégories du peuple d'Israël en ce temps-là. Il y a eu, schématiquement, quatre catégories, qui sont cinq, mais je vous donnerai quelques exemples. Il y a eu ceux grâce à qui l'événement a pu se faire, ceux qu'on appelle toujours les avant-gardes, hein, ceux qui se lancent dans l'histoire et qui font que la suite des événements les suit. Ceux qui sont sortis d'eux-mêmes. Il y a eu ceux qu'on a obligés à sortir. Et ici, le verset met en dominante le fait que c'est la deuxième formulation qui est employée. En fin de compte, si le peuple est sorti, c'est parce que le pharaon les a renvoyés. Et regardez à quel point ça ressemble aux événements de fin d'exil, chaque fois que nous avons à vivre des événements de fin d'exil. Alors, il y a toujours une petite partie du peuple qui déclenche les événements, mais l'immense majorité des autres, eh bien, les subissent parce que, au fond, ça dévoile qu'ils ne veulent pas sortir d'Égypte, mais qu'il faut acculer le pharaon, les obliger à sortir. Ce qui jette, a posteriori, un éclairage sur l'ordonnance des événements et du récit des dix plaies d'Égypte. Effectivement, nous avons vécu cela aussi de notre temps. Le temps de la fin de l'exil est arrivé. Alors, vous avez une poignée de pionniers, comme on les appelle, les pères fondateurs, les marchonim, qui, eux, ont vécu l'événement en avant-garde, mais pour l'immense majorité du peuple juif, il est bien évident que l'État d'Israël a été un refuge de ceux à qui on a, de ceux qu'on l'on a obligé à venir. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Est-ce que c'est suffisamment clair? Oui, c'est le même, le même événement qui se réalise. Et aujourd'hui encore, ce n'est pas achevé. Aujourd'hui encore, indépendamment de la poignée de ceux qui arrivent parce qu'ils viennent, il y a l'immense majorité de ceux qui arrivent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et vous voyez à quel point ça s'équivaut. Plus que ça se ressent, c'est la même chose. Et il arriva lorsque le pharaon eut renvoyé le peuple. Et là, nous avons deux séries de midrashim. D'une part, des midrashim qui vont mettre cet aspect négatif en lui.